Nous sommes le 14 août 2013. Je vais vous demander de vous présenter.
Alors, je m'appelle Claudine Volikoff. Je suis enseignante universitaire à la retraite. Et depuis que j'ai commencé mes premiers travaux de recherche d'étudiante, je me suis intéressée à l'histoire du vignoble de Champagne méridionale, comme on disait déjà au XVIIIe siècle. Et travaillant sur le XVIIIe siècle, je suis travaillé sur la Révolution française, toujours avec l'histoire du vignoble. Et le centenaire des révoltes de 1911 a fait que j'ai un peu avancé. Donc j'ai travaillé sur 1911 et le premier XXe siècle, disons. Et je continue, voilà.
Vous êtes né où et quand?
Alors, je suis né en 1945 à Bayel. Donc, je suis bayéloise. Et je l'ai compris que très tardivement parce que la maison dans laquelle j'ai passé mes 5 premières années était voisine de la maison que Gaston Schoeck possédait à Bayel. Je crois que ça venait de sa femme. Et donc, toute ma petite enfance, j'ai entendu parler de Gaston Schoeck avec un respect, une admiration. Je ne savais pas qui il était, je ne savais pas ce qu'il avait fait. Et c'est plus tardivement que j'ai compris. C'est mon père qui m'a ensuite raconté ça parce que mon père m'a élevé dans la mémoire très vive de la révolte de 1911. Et à chaque fois qu'on faisait Bagneux, puisque c'est la maison de famille ici qui vient de mon père, à chaque fois qu'on allait de Bagneux à Bar-sur-Seine et qu'on franchissait le passage à niveau à Polizot, mon père, une fois, deux fois, 50 fois par an, ne manquait jamais de me rappeler que de là était parti le bataillon de fer. Et il me racontait 1911 comme s'il y était. Alors, les scènes frappantes, c'était le départ des bataillons de fer de Polizot et les feuilles d'impôt qui brûlaient dans les hôtes à vendange. Ça, c'est les images que j'ai reçues verbalement, oralement, dès mon plus jeune âge. Et je n'ai compris que très tardivement, mon père était mort, donc je ne pouvais plus lui poser la question. Mon père me racontait ça, mais lui, il était né en 1914. Donc forcément, c'est passé par ses parents, ses grands-parents. Et en même temps, comme dans toutes les familles de la belle époque, donc j'ai hérité de cartons de photos et de cartes postales, puisqu'on faisait les collections de cartes postales, et pas une seule, ni photo, ni carte postale ne concerne, alors que bon, le département a été inondé de séries de cartes postales, donc je n'en ai aucune. Alors, c'est passé par ou la famille ou un vieux vigneron qui habitait Bagneux, dont je me souviens encore, et dont j'ai découvert que c'était un rouge, hein, un militant qui était en liaison avec et Gaston Schoeck et les vignerons d'Hérissé à l'époque. Alors, est-ce que c'est aussi passé par lui? Bon, en tout cas, voilà. Donc je suis un peu un cas d'espèce là-dedans, un cas à part.
Qui était cet homme-là?
Lequel?
Celui dont vous venez de parler là.
Alors, il s'appelait, j'ai retrouvé, son nom va me revenir. Il habitait là, un peu plus bas. Gaston Cholot.
Gaston Cholot.
Gaston Cholot.
Ça s'écrit comment?
Cholot. Oui, Cholot.
Et alors, qui
Alors,
était...
c'était un vigneron. C'était célèbre. Bon, c'est un vigneron des temps héroïques, hein, quand le vignoble dans l'Aube était un peu dans une situation désespérée. Et alors, c'était un perfectionniste, un maniaque. Et le trait qui m'est resté, quand Gaston Cholot sortait de sa vigne, il sortait à reculons en effaçant la trace de ses pas pour laisser un rang net. Pas d'empreinte dans les rangs de vigne. Bon, voilà. Donc c'était Et alors, je me souviens très bien, ils habitaient là, pas en face, mais presque. Donc j'allais de temps en temps leur rendre visite, toute seule ou avec mon père, et je me rappelle très bien de lui. Et de ce trait de caractère un peu maniaque.
Et de vos yeux d'enfant, c'était quoi, Avignon ?
Ah ben non, hein, moi je suis tombé dedans, hein, parce que mon père avait plein d'amis vignerons, qui donc se sont, dont un, le Dédé Crenillier de Polizy, donc qui avec mon père, c'est celui qui m'a appris à boire le champagne, et puis le travail de la vigne, je connaissais, hein, et, parce que j'allais, alors les vendanges, oui. Et puis, toujours dans le cousinage de la famille de Bagneux, il y a un cousin qui est à Chassagne-Montrachet, et donc chez qui on allait très souvent, et je suivais, mon père m'emmenait avec lui, donc les tournées de cave, hein, le tasse de vin à la pipette avec le cousin, et on surveillait... On surveillait le vieillissement du 47. Voilà, donc, non. Je sais pas, le vigneron, oui, le vigneron, c'est celui qui a des vignes, qui fait du vin, du bon vin, puisque entre le Chassagne-Montrachet et le Champagne, donc c'était pas des piquettes, tout ça, donc, voilà.
Que faisaient vos parents ?
Alors, mes parents étaient instituteurs, l'un et l'autre. Mais mon père est né ici et il est devenu instituteur pas par hasard, mais par défaut, parce que mon grand-père est mort quand mon père avait 10 ans. Il est mort en rentrant une récolte, il déchargeait une remorque et le cheval a reculé et lui a... Il est tombé, il lui a brisé la moelle épinière, donc... une voisine qui n'est plus là, mais... qui a une mémoire d'éléphant et qui est la mémoire un peu de la famille aussi, m'a raconté tardivement que, vous savez, à l'époque, on mourait en public. Hein. Et donc, mon grand-père a fait monter ses deux enfants... 10 ans et 6 ans respectivement sur son lit pour leur dire au revoir. Et en disant à mon père, ne fais jamais ce métier. Et c'est comme ça que, bon, alors que c'était une exploitation, j'avais un grand-père plutôt, disons, ouvert, progressiste, qui a été un des premiers à avoir une faucheuse. Qu'avait, bon, à l'époque, en 1914, une exploitation de 25 hectares de terre, c'était quelque chose d'assez conséquent. Alors, il y avait aussi des vignes, et mon père m'a raconté que môme, il allait livrer du vin au Rissé. Et d'ailleurs, tous ces bâtiments-là, il y a toute la maison ici, il y a une cave, une enfilade de caves, et des caves sous les granges et la vinée, donc c'est des caves pas du tout, d'un volume bien plus grand que celui d'une consommation domestique. Hein. Donc il y avait aussi des vignes. Voilà, j'ai un pied, comme disait mon professeur et maître Albert Soboul, tous les deux on a de la paille dans nos sabots. Donc le travail rural, je suis tombé dedans. Ici, on y passait toutes les petites vacances et une grande partie des vacances d'été, donc j'étais fourré à aller garder les vaches avec mes copines, à participer au battage. Alors, dans mes modestes moyens, mais j'étais toute fière d'aller battre, c'était chez les voisins à côté. Donc, c'est une société et des travaux qui me sont familiers.
Donc, vos cinq premières années, vous les avez passées à Bayel.
À Bayel, oui. Ah oui. Ah oui, ça, je me souviens très très bien, parce que Bayel, c'était bon, un petit bourg ouvrier, hein, et avec des familles nombreuses et rythmées par l'usine. Et puis, hein, donc c'était la sirène d'usine qui rythmait la vie au village. Donc il y avait la sirène de 5 heures, c'était l'entrée des ouvriers, et le marine manouri, c'était souffleur de verre. Il y avait la sirène de 8 heures, c'était la main-d'œuvre féminine, l'empaquetage, etc. Il y avait la sirène d'une heure, c'était la sortie des ouvriers. Et alors il y avait, bon, c'était un grand paternalisme, hein, de la famille Messirel-Marcaux, donc, mais il y avait des fêtes villageoises, il y avait une harmonie, il y avait. Alors, toute la population était logée dans des logements ouvriers de l'usine. Et avec. Alors, mon père était directeur de l'école de garçons, ma mère directrice de l'école de filles. Donc, il y avait la rivalité entre le patronage laïque et le patronage des sœurs, moyennant quoi, quand même, dans mon enfance. Et après, bon, quand mes parents ont demandé leur mutation pour Troyes pour des raisons de scolarité de mon frère et moi, je retournais à Bayel. Très très souvent. Je prenais l'autocar toute seule. Et ma nourrice m'attendait à l'arrêt d'autocar à Bayel. Et donc, à Bayel, oui, ça, j'ai des grands souvenirs. Des grands souvenirs. Et donc, grâce à à ce gros bourg et aux conditions de l'époque, il y avait deux salles de cinéma à Bayel. Le cinéma dit des sœurs, parce que tenu par. Enfin, appartenant à la paroisse ou, je sais pas, à la fabrique, et le cinéma du patro, le patronage laïque. Donc, je voyais quatre films par semaine. Parce qu'il y avait la première partie, hein, et puis la deuxième partie. Donc, j'ai été nourri, ça je l'ai appris plus tard, j'avais bien le souvenir, j'avais le souvenir des films que j'avais vus. Ah, c'était les accords Bloomberg, alors il fallait qu'il y ait 60% de films américains. Bon, donc j'ai grandi nourri aux films américains, à raison de deux séances par semaine. Donc j'ai plein de très très bons souvenirs de Bayel.
Vous aviez vos grands-parents maternels?
Alors mes grands-parents maternels, oui, c'est lié aussi là. Parce que mon grand-père était donc instituteur, puis les écoles primaires supérieures, les cours complémentaires, donc il a enseigné à Bar-sur-Aube. Et là, et ça ma mère m'a raconté, il a enseigné à Bar-sur-Aube en même temps que Bachelard. Donc ils étaient copains et ils allaient tous les deux herboriser sur la colline Sainte-Germaine. Et donc, ma mère m'a raconté ça, elle était assez fière d'ailleurs, que Bachelard l'a fait sauter sur ses genoux. Et elle se rappelait de sa fille, Suzanne Bachelard. Alors, Suzanne Bachelard, elle a été aussi prof de philo à la Sorbonne. Et mon mari est historien, mais avec un fort penchant pour la philosophie. Donc, après avoir passé l'agrégation d'histoire, il a voulu faire une licence de philosophie. Et qui est-ce qui lui a fait passer ses oraux? C'était Suzanne Bachelard. Alors, je me souviens d'être allé le chercher à la sortie de son oral, et je croise une femme dans une tenue vraiment très très modeste. Je me suis dit, tiens, ça doit être une femme de ménage. Ben, pas du tout, c'était Suzanne Bachelard qui sortait de faire passer les oraux de licence de philosophie. Et. Alors là aussi, ça a nourri les souvenirs de Gaston Schenck. Hein. Mais et après, mon grand-père s'est retiré après sa longue carrière d'enseignant dans son village natal, c'est-à-dire Fresnoy-le-Château. Donc c'est plus le vignoble là. Mais il avait de la vigne dans la terre glaise, bien à plat. Et donc là aussi, il y avait les vendanges, donc comme mon grand-père avait 6 enfants, donc tout le monde était mobilisé pour venir vendanger et pressurer. Et donc j'ai des souvenirs de vin doux sortant de la gueule du pressoir et des odeurs. Et alors il avait 2 vignes en hybride direct, interdit à la vente, une vigne de Baco, une vigne de Nora, c'est-à-dire vraiment les cépages les plus grossiers qui soient. Mais c'était là pour la consommation domestique.
Donc vous disiez, vous parlez de Gaston Schenck, oui. Est-ce que vous en entendiez dire ?
Gaston Schenck, c'était Gaston Schenck, c'était l'objet, je vous dis, j'ai mis... après mon père, assez tôt, c'est-à-dire, je ne sais pas, j'avais 12 ans, 14 ans, donc m'a raconté que Gaston Schenck, c'était le grand leader de la révolte auboise. Mais, à Bayel, tout le monde parlait de Gaston Schenck. Alors, donc je finis en 45, mais donc vous voyez, c'est 45-50, donc il y avait encore une mémoire très très vive de Gaston Schenck. Hein, Gaston Schenck, il est mort en 37, donc oui, il avait laissé des traces. Parce que, ça je l'ai découvert en travaillant sur 1911 pour le centenaire. Bon, vous savez peut-être que à peu près les 2/3 des conseils municipaux au bois avaient officiellement démissionné. Et puis le tiers restant n'avait pas forcément envoyé sa démission au préfet, mais c'était tout comme, hein, c'était la grève administrative. Et alors, c'est Bar-sur-Aube qui a donné le départ de la démission du conseil municipal. Alors bon, Bar-sur-Aube, Gaston Schenck, qui était conseiller municipal, en effet. Mais il y a eu tout un mouvement de solidarité qui a dépassé de très loin les 60 communes viticoles. Hein. Et alors, bon, bien sûr, la démission de la municipalité de Troyes, capitale de la Bonneterie, ça a eu un effet symbolique très fort. Mais en dehors de Troyes, il y a 2 municipalités qui ont démissionné officiellement et qui ont maintenu leur démission malgré les télégrammes préfectoraux et les injonctions préfectorales. Et qui ont, là aussi, la charge symbolique était très forte. Alors, justement, la municipalité de Bayel, hein, dirigée par Messirel Marco, avec soutien financier aux vignerons pour organiser leurs manifestations. Et puis, dans le Barcéquanais, il y a eu aussi une démission qui a fait grand bruit à l'époque, à l'échelle locale. C'est la démission de la municipalité de Chaours. Hein, il n'y a pas de vignoble à Chaours. Et qui est-ce qui est maire de Chaours? C'est Chandon de Briaille, c'est-à-dire le cousin germain des Boitiers Chandon des Pernets. Et donc, évidemment, là, par exemple, le petit courrier de Bar-sur-Seine a consacré à l'époque un article pour souligner et remercier M. Chandon de Briaille de la solidarité exprimée avec les vignerons. Voilà.
Et votre grand-père maternel oui. A fait 14-18
ou... Oui. Et on a même ses carnets de tranchées. Et il a fait 14-18, en effet. Et il nous a raconté tardivement, je crois qu'on est les seuls dans la famille, nous, c'est mon mari et moi. C'était très peu de temps après notre mariage. Et. Alors justement, l'année où on a passé l'agrégation, il y avait la guerre de 14 dans les questions d'histoire. Bon, donc. Et donc on a fait parler mon grand-père. Et alors il nous a raconté que en 1917, il faisait partie de ceux qu'on envoyait soi-disant chercher les déserteurs, et il n'a compris que plus tard et rétrospectivement que c'était qu'on lui faisait faire la chasse aux mutins 17. Mais sur le coup, il n'avait pas compris. Oui, oui, alors, j'ai même des souvenirs qui viennent de mon grand-père. Un cendrier refait dans des éclats d'obus, un porte-plume avec... si vous voulez, je peux vous montrer ça. Oui, ça devait être un. Je ne sais plus exactement. Il doit manquer une pièce. Bon. Et alors ça. Donc vous avez l'inscription. L'inscription Verdun, où elle est. Voilà. Alors oui, c'est souvenir de Verdun, mais le. Il manque un truc qui est parti, voilà. Et, bon, c'est du travail de mobiliser pour occuper leur loisir. Alors, fort heureusement, il est revenu. Et son père, à lui, que j'ai connu, c'est le seul arrière-grand-père que j'ai connu, était ouvrier agricole à Fresnois, Ratsoc, hein. Et à force de travail, enfin bon, il s'était lui aussi, il avait fini par se constituer une petite exploitation. Une petite exploitation agricole. Et alors, bon, c'est le profil école libératrice. Hein, donc, mon grand-père, qui était son fils aîné, travaillait bien à l'école, comme on disait, et c'est l'instituteur de Fresnois qui a poussé à ce que... qu'il fallait envoyer Aimé, puisque Aimé était son prénom, qu'il fallait l'envoyer poursuivre ses études.
Ratsoc ?
Oui, radical socialiste. Oui, c'était le parti républicain, c'était bon, la gauche républicaine de la Troisième République à cette époque-là.
Donc vous-même, vous avez une éducation religieuse ?
Ah non, pas du tout. Non, nous sommes... des familles, alors mes parents, oui, et mes grands-parents des deux côtés, c'était laïque. Donc je n'ai pas eu d'éducation religieuse, je n'ai pas été baptisé, et pour qu'il n'y ait pas de méprise, je n'ai qu'un seul prénom. Hein, pas d'affiliation avec des parents marraines, non, un seul prénom.
Mais vous alliez au cinéma?
Ah bah bien sûr, chez les sœurs. Mais oui, alors j'ai jamais eu le moindre...
Et à Bayel, il y avait un petit peu entre ceux qui étaient laïcs, ceux qui étaient...
Je trouve que c'était du paisible... Non, bah alors, bon, les instituteurs, mon père animait bon, les œuvres laïques, hein. Le club de foot de Bayel, bon, il y avait une rivalité, mais c'était pas au lance-pierre, hein. C'était tout à fait, c'est de l'émulation, si je peux dire. Non, je n'ai pas de souvenir de guerre anticléricale à Bayel.
Vous parlez de votre grand-père.
Oui, celui-là.
Donc, il vous a raconté un petit peu les tranchées, les choses comme ça, ou il en parlait peu?
Bah. La principale conversation qu'on ait eue, c'est celle-là, là, quand il a évoqué que... Et après, quand il est mort, et qu'il a fallu vider la maison, bon, je vous passe les détails, c'est là que j'ai retrouvé ces carnets de tranchées, qui sont quelque part dans l'autre maison, là-bas. Et alors... il avait toute une bande de copains qui étaient, bah c'était ses anciens potes de la guerre, quoi. Et donc, pareil, quand j'étais môme, souvent il m'emmenait avec lui. Alors, il y avait une quincaillerie qui a eu un instant ses heures de gloire à Troyes. Il y avait donc c'était la camaraderie des tranchées, hein, il y avait un horticulteur, donc je me souviens, je le suivais, alors pourquoi j'étais avec lui, je ne sais pas, bon, il me trimballait lui aussi avec lui souvent, et donc j'ai connu, oui, tous ces gens-là, qui continuaient et qui organisaient, qui se retrouvaient fréquemment, dont un banquet rituel annuel.
Et donc, il y a a fallu déménager de Bayel.
Alors, j'ai quitté Bayel, oui. Et nous avons atterri à l'école de filles de Saint-Paul-au-Tertre. Où j'étais là, donc de 5 ans à 18 ans, j'étais à Saint-Paul-au-Tertre. Et quand est arrivée l'entrée en 6e, on m'a offert un vélo pour que j'aille au lycée de jeunes filles, qui s'appelle maintenant Marie de Champagne, en vélo. Et trois, alors j'ai des souvenirs, d'embouteillages cyclistes à trois. Parce que tous les bonnetiers circulaient principalement en vélo. Et donc les rentrées et sorties d'usine, c'était l'embouteillage cycliste.
Saint-Paul-au-Tertre, c'était encore un peu isolé par rapport à toi.
Oui, parce que il y avait toute la partie inondable là, une fois qu'on a franchi le pont, qui était. Mais maintenant, oui, j'ai peine à m'y retrouver un peu. Mais j'ai le souvenir de la petite côte quand même à monter pour revenir de Troyes à Saint-Paul. Parce que je cherchais toujours une copine ou un copain qui soit en mobylette et pour m'accrocher à son épaule et monter la côte sans pédaler.
Et donc, vous aviez une idée de ce que vous vouliez faire, ou vous vouliez faire comme vos parents, comme vos grands-parents ?
Alors, quand j'étais môme, quand j'avais 8 ans, 10 ans, je voulais être archéologue. Parce que j'avais lu des trucs sur l'Égypte, enfin bon, c'est le mythe égyptien qui fonctionne toujours. Et évidemment, en prenant de l'âge, je me suis rendu compte que c'était pas... Socialement, c'était pas une perspective très réaliste, quoi. Et donc, alors ça, j'ai compris rétrospectivement. Mes parents souhaitaient que je fasse un peu mieux qu'eux, quoi. Hein? Et alors, paysan, instituteur, professeur, c'est quand même... Alors je racontais ça des fois aux élèves ou aux étudiants et je leur disais je suis un module statistique.
Bah oui. C'est pas tout à fait bourdieusien, mais presque.
Hein. Comment ?
C'est pas tout à fait bourdieu, mais presque.
Oh bah oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, pourquoi l'histoire ? Bah parce que je crois que c'est parce que je suis. Comme alors pareil, c'est d'une banalité. Parce que j'ai eu quelques bons profs de lycée. Et puis, surtout en classe préparatoire, j'ai eu un prof en hippocagne et cagne. J'ai eu le même prof, d'ailleurs, dans les deux années. Et là, qui m'a vraiment convaincu que c'était ça que j'avais envie de faire. Voilà. Donc, j'ai été prof de lycée pendant longtemps. Et puis, quand même, alors j'avais assez vite, après l'agrégation, commencé une thèse d'histoire. Puis bon, les enfants sont arrivés, mon mari faisait une thèse. Je ne divorce pas pour une thèse. Donc j'ai remballé mes dossiers et j'ai fait du syndicalisme. Et quand... les enfants étaient capables de s'élever tout seuls et que mon mari avait terminé sa thèse, alors là je m'y suis mise donc. Et donc j'ai les 15 dernières années je les ai passées à Nanterre à la fac. Voilà.
Quand est-ce que vous avez rencontré votre mari?
Oh ben alors c'est pareil, c'est d'une très grande banalité, c'est dans une queue de restaurant universitaire.
En quoi c'est banal?
Oh ben c'est... Ce n'est pas d'une très grande originalité qu'une étudiante fasse connaissance d'un étudiant dans une queue de resto U.
Et c'était en quelle année ?
C'était en 66.
Ah, c'était encore à l'époque pré-68
ans, d'ailleurs. Oui, 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 oui.
Vous n'étiez pas hippie ?
Non, j'ai jamais été trop hippie. Mais je considérais ça avec plutôt sympathie. Mais sans. Alors j'étais très branché musique, chansons françaises et anglo-saxonnes. Pas au point de flower power, hein. Et peace and love, non.
Et quand 68 est arrivé, vous l'avez vu venir ou pas?
Alors 68, si, parce que bon, tradition, là aussi, hein, c'est mon père qui m'a élevé dans le syndicalisme. Donc évidemment, j'étais dans les syndicats étudiants. Alors, bon, plutôt à gauche. Je peux pas dire que j'ai pas prévu, mais j'étais pas étonné. Et alors, j'étais à Paris en 68. J'étais en. Enfin, ce qui ne s'appelait pas encore la maîtrise. Et quand même, mon principal souci, c'était pas tellement de faire la révolution, c'était d'avoir la mention très bien à bon, ce qui s'appelait à l'époque diplôme d'études supérieures, pour être sûr d'avoir ma bourse d'agrégation. Voilà quel était mon grand souci. Alors, à part ça, si, j'ai. C'est là que j'ai reçu mes premiers coups de pèlerine. C'était parce que les flics avaient encore des pèlerines dans les défilés de mai 68. Et y a une formule que j'ai trouvée chez Chateaubriand. Hein, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, Chateaubriand raconte qu'il est à Paris en 89, 1789-90, et il écrit « L'humanité était en vacances ». Et 68 à Paris, c'est le souvenir que j'en ai gardé. On marchait à pied beaucoup, beaucoup, puisque hein, les banques étaient en grève, mais je sais pas, tout ça marchait quand même tout à fait convenablement dans la bonne humeur. Alors, mon mari est pas là, puisqu'il est. Mais lui, il a fait partie des forces d'occupation de la Sorbonne. Et moi, je grattais pour. Alors, justement, je faisais ma maîtrise sur l'hérissé au XVIIIe siècle. Donc, j'étais immergé dans la vigne et les vignerons. Et les luttes antiseigneuriales au hérissé. Donc, voilà. Et donc, j'ai commencé à enseigner à la rentrée 69, l'année précise où mon père a pris sa retraite en juillet 69 et moi j'ai commencé à enseigner en septembre 69. Voilà la continuité dans la famille.
Et vous me disiez tout à l'heure que votre père avait un peu de vigne, il s'en occupait ou pas?
Non, alors là, il y avait des vignes donc qui venaient de mon grand-père, des terres à vignes, hein, parce que vous savez que le vignoble au bois, il s'était rétréci comme une peau de chagrin. Donc il y avait des terres quand même qui avaient été classées en 27 et Et quand la vigne a repris dans les années 60, alors ces terres à vigne, il les a louées à notre meilleur copain d'ici, qui était un jeune et qui était un de ses chouchous. Et donc, c'est lui qui a cultivé la vigne et maintenant qu'il y possède, puisque je lui ai vendu.
Mais c'est en friche ou...
Non, ben alors, c'est Alain, donc, qui a planté, oui, qui a planté. Mais non, maintenant, elles
Ah non,
sont.
mais avant de les louer.
Ah oui, c'était de la friche. De la friche. Il a fallu. Vous savez, ici à Bagneux, au premier cadastre, hein, il y avait plus de 300 hectares de vignes. Je peux même vous dire exactement combien. Je crois que c'est 335. il a fait un truc là qui est d'une utilité. Voilà. Alors, il a fait le relevé cadastral par commune et par masse de culture. Alors, c'est une mine. Une mine. Voilà. Alors, Bagnes-la-Fosse. Voilà, 335. Et donc, qu'est-ce qui restait? Alors, il y avait quelques courageux, là, ceux que j'appelle les vignerons héroïques, contenus bons, jusqu'à la reprise, disons, des années 60. Hein. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y avait 10 hectares de vignes à Bagneux quand j'étais baume. Hein. Donc, tout ça, c'est... Oui, c'est des friches qui ont été plantées.
Connaissiez un petit peu la vigne enfant, vous vous souvenez, vous pouvez me raconter des anecdotes ou des choses sur, vos pas dans les vignes?
Mes pas dans les vignes. Mes pas dans les vignes. Alors c'était plutôt justement parce que comme ici il n'y avait plus grand chose, et puis alors quand même les vendanges, la rentrée des classes était faite. Hein. Donc c'était que surtout j'ai des souvenirs, oui, de pressoir et l'odeur du pressoir. D'ailleurs j'adore toujours ça. Donc chaque année aux vendanges, je fais ma petite tournée les pressoirs pour aller saluer les copains. Mais et c'est quand même des souvenirs plus tardifs que des souvenirs de môme. Hein, enfant, alors les vacances, je vous dis. J'allais garder les vaches avec mes copines ici et j'étais au battage, mais les vendanges, c'était trop tard pour moi. Mais je connaissais bien le travail de la vigne par les cousins de Chassagne, parce que là, j'allais me balader dans les vignes. À chaque fois donc je voyais le travail en cave. Hein, je revois ma cousine sur le marbre avec la colle pour coller les étiquettes sur les bouteilles, puisque ça, c'était un travail... plutôt de femmes. Je me rappelle aussi qu'elle se plaignait parce que mon cousin, son mari, l'envoyait quand même allègrement, la réquisitionnait pour la taille. Donc, alors c'était lié, je me souviens, elle souffrait parce qu'elle avait des varices et il l'envoyait quand même à la taille, hein, évidemment par tous les temps. Donc c'est quand même... hein, c'est des petites touches, c'est pas...
Et quand vous avez retravaillé la vigne pour le centenaire,
oui.
Est-ce que vous avez eu envie de retourner un peu ou de retourner sur le terrain, d'aller
C'est-à-dire que quand j'ai fait ma maîtrise, donc c'était dans l'année universitaire 67-68, sur l'hérissier au XVIIIe siècle, donc fallait... Alors là, je suis allée... questionner, je commençais par mon père, et si ça suffisait pas, donc on allait, parce qu'il y avait des tas de termes techniques que je ne connaissais absolument pas, hein, plus les pratiques culturales au XVIIIe siècle, c'était pas tout à fait celle d'aujourd'hui non plus, alors donc il a fallu faire un, il fallait que je fasse ma formation, hein, donc soit par la lecture des récits d'époque, mais... par exemple, je me souviens très bien, là, j'étais tombé sur des inventaires après décès, enfin, je vous pense, et une description de pressoir, des trucs gigantesques. Et c'est comme ça que, racontant ça à André Crenillet, il m'a dit, mais... Et donc, au château... de Polizy, avant l'incendie et avant je ne sais plus lequel là, qui a vendu tout ce qu'il pouvait. Donc il y avait dans les communs du château un de ces énormes pressoirs, comme on peut en voir maintenant encore à Beaune, hein, au musée de la vigne. Et alors là, je m'y croyais, quoi, parce que c'était effectivement un pressoir 18e siècle. Et... les descriptions que j'avais, avec y compris la longueur, des poutres qui servaient de levier, etc. C'était bon, un engin monumental comme ça. Et après, il y en a un, mais d'un peu moins grande taille.
Je vais faire
une. Oui, oui. Alors, qui est à Chablis et qui fonctionne toujours. Et alors, je ne sais plus comment s'appelle le plus grand propriétaire de Chablis. J'ai oublié le nom de la maison. Et chaque année, au vendange, il fait une démonstration de... Et là, j'ai compris, parce que je n'arrivais pas à comprendre comment fonctionnait ce levier. Alors, il y avait les planches de l'encyclopédie, oui, qui m'ont aidé aussi. Mais les dessins ou le... Alors, la minute notariale, et c'est en voyant, hein, là j'ai compris ce que c'était que le pressoir à abattage, comment fonctionnait le levier. Et alors, c'est des engins, il y a une telle pression que c'est pas le pressoir qui casse, c'est ça peut effondrer le sol ou même faire tomber le toit. Voilà. Comme ça, donc, de fil en aiguille, je me suis initiée à la viticulture et à la vinification.
Et ça vous a rapproché de ça, ou de la viticulture, de la vinification, de toutes ces choses-là?
Mais oui, mais à tel point que ma tante chérie préférée me disait « Arrête avec tes vignerons, tu les mythifies », mais je les aime toujours autant. Non, c'est des gens, d'abord d'une très grande sociabilité. Hein. Ici, vous arrivez n'importe où, entrez, on ouvre une bouteille avant de vous demander qu'est-ce qui vous amène. Et je racontais ça à un ami qui a longtemps été dans l'Aube, et qui disait, mais oui, mais parce que quand on va du côté d'Arcy, on entre... On nous reçoit à la porte, on ne nous fait pas entrer dans les pays de culture.
Et aujourd'hui, les vignerons sont les mêmes?
Ah, c'est pas tout à fait rouge, hein, parce que en 1900-1911, tout le Barcécoinais, et l'Hérissé en particulier, c'était... un bastion rouge, un bastion guédiste. Et Jules Guéde est venu au Rissé. Alors, les vignerons ont beaucoup changé. Et en même temps, par exemple, 1911, moi j'ai été élevé dans la mémoire de 1911, mais j'ai plein de copains, copines de mon âge, de familles locales, vigneronnes ou pas, mais selon les familles, la mémoire a été transmise ou pas du tout. Et bon, aujourd'hui, qui sont quand même dans une aisance, sinon une opulence certaine, il y a une mémoire qui ne tienne pas à garder. Alors, par exemple, c'est très difficile. Hein. J'ai fait plusieurs conférences sur 1911. Donc, le drapeau rouge. Que fait le drapeau rouge en 1911? Donc, oui. Alors, justement, 1911, c'est le 40e anniversaire de la Commune. Hein, et là, on sort les drapeaux rouges pour l'anniversaire de la Commune. Mais au Rissé, il y avait une troupe du théâtre socialiste. Et la première coopérative des Rissé, la coopérative des Rissé, c'est la première coopérative de l'Aube, hein, 1922, et qui est formée par les fondateurs du syndicat vigneron des Rissé en 1911. Tradition, là aussi, guédiste.
40 ans après la Commune, il y avait encore des drapeaux. Ah, aujourd'hui, ouais. On ne les trouve plus.
De quoi?
Les drapeaux rouges.
Alors, où est-ce que j'en ai? Mais c'est pas difficile de fabriquer un drapeau rouge, hein. C'est pour ça qu'il prolifère en 1911. Il n'y a rien de plus facile à faire. Non, mais des drapeaux marqués, alors où est-ce que j'en ai vu un, hein? Je sais plus. Mais en même temps, moi, ce qui m'a frappé, et bien sûr ému, c'est quand même, en 2011, dans l'Aube, la mobilisation pour le centenaire. Avec des rassemblements, avec trois générations d'une même famille. Hein. Bar-sur-Aube, c'était... Et bon, l'idée géniale de Françoise Wendling de refaire la marche, on a vu quand même les grands-parents, les parents, les petits-enfants, tous dans... Enfin, ça, c'était quand même réussi.
Et, passé sur 1911, donc, votre père vous racontait des anecdotes, pas, ou des choses qui se sont produites?
Non, les scènes frappantes. Les scènes frappantes. Donc je vous dis.
Et si vous deviez les raconter comme. Pas forcément comme il vous racontait, mais selon, d'après vos souvenirs, comment vous les raconteriez là?
Bon, c'était, je vous répète, à Polizzo, le départ des bataillons de fer à pied pour Troyes. Et la scène phare, c'était les feuilles d'impôt brûlant dans les hôtes à vendange. Alors moi, j'amalgamais tout ça, et c'est qu'après que, bon, Polizzo, c'est le... Mais les feuilles d'impôt qui brûlent dans les hôtes à vendange, c'était à Bar-sur-Aube, c'était pas à Bar-sur-Seine. Donc peut-être que lui aussi, dans sa tête, c'était un peu amalgamé. Non, c'était... Bon, pour aller vite, c'était m'en rappeler les leçons de l'histoire, hein, que s'il n'y avait pas eu cette mobilisation, s'il n'y avait pas eu des gens d'une grande ténacité pour tenir bon jusqu'en 1927, il n'y aurait plus de vignes et pas de champagne dans l'Aube. Hein. C'était ça, ce qu'il voulait me transmettre. Donc c'était plutôt une mémoire pour l'action.
De dispense de vélo.
Donc, je vous ai dit, quand je suis entré en 6e, j'allais au lycée en vélo. Il y avait bien une bonne demi-heure, hein, pour faire Saint-Parot-Tertre, le lycée de jeunes filles, puisque lycée de jeunes filles, il s'appelait. Et donc, le jeudi, alors, est-ce qu'on avait cours? Non, on devait avoir cours que le jeudi matin. Peu importe. Donc, le jeudi était souvent, sinon chaque semaine. Ah oui, le bureau devait se réunir. Donc, mon père était membre du bureau du SNI. Et donc, il me conduisait à, je ne sais plus si c'était les leçons de piano ou de danse, enfin, peu importe. Et rendez-vous était donné. Alors, le grand rendez-vous... Ah oui, il y avait deux bistrots. Donc, j'ai été élevé aussi dans les bistrots. Et je continue à être très culture bistrot. Donc, c'était la brasserie vosgienne, qui existe toujours. Et puis, comment il s'appelait l'autre? Un café qui était en face... les anciens magasins réunis maintenant, Fnac et compagnie. Donc c'était là les deux rendez-vous alternatifs de la sortie du bureau syndical. Donc je retrouvais mon père là avec ses copains et camarades, et donc parlant SNI, parlant FEN, parlant d'autres choses aussi. Donc voilà. Mais, pour ça, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais aussi grandi dans le syndicalisme. Et... Et je me rappelle de mon père, donc il y avait les congrès du SNI, hein, les congrès nationaux, et je me souviens de mon père se levant à 5 heures du matin pour faire son rapport pour le congrès du SNI. Et moi, je me levais à 7h ou 6h30, je ne sais plus, pour être en cours au lycée à 8h du matin. Et mon père était déjà grattant. Alors je disais, qu'est-ce que tu fais ? Mon rapport. Alors pour moi, c'était mystérieux, qu'est-ce que c'est qu'un rapport ?
Votre père s'appelait comment ?
Pierre Houdeau. H-O-U-D-E-A-U. Et alors, il y a encore des gens qui se rappellent de lui, donc quand je peux encore me présenter comme la fille de mon père, là, je suis ému. Alors, quelqu'un que vous connaissez sûrement, Jean Daunet. Donc, Daunet, alors moi, Daunet, j'entendais parler de... Mais je ne le connaissais pas, hein, par mes parents. Il y a une partie de ses œuvres, là. Avec, pareil, c'était un peu... comme ça, avec l'éloge admiratif, hein, un peu comme quand on me parlait de Gaston Schenck, quoi. Je ne connaissais pas Daunet. Et alors, dans la tournée de conférences qu'on avait organisée autour du centenaire, c'était à Bar-sur-Seine, à l'Union-Boise, là, c'était pas encore au manoir, c'était de l'autre côté. Donc il y avait... alors, je fais un truc sur l'histoire de la délimitation, je crois. Et beaucoup de monde, même des gens assis par terre. Bref, arrive la fin de la conférence et je vois arriver. Alors, un monsieur qui était au premier rang, j'ai compris après pourquoi, parce qu'il a des problèmes auditifs, qui vient me voir et Françoise Wendling me dit c'est Jean Daunet. Impressionné, surtout qu'il est droit comme un nid. Et Volikov, je voyais, et je lui dis, je suis la fille de Pierre Houdeau. Oh, alors là, il m'a ouvert les bras. Donc, et il y a encore quelques personnes, ben, le papa de la dame là, qui est là, alors qui était ouvrier vigneron ici, et chasseur, et il a connu mon père aussi. Alors, mon père, il aurait 100 ans l'année prochaine, alors maintenant, rares maintenant sont ceux à qui je peux dire que me présenter comme la fille de mon père.
Et ça, c'est quelque chose qui vous a donné envie d'être dans les syndicats, etc.
Ah ben, c'est-à-dire que j'ai toujours pensé que c'était indispensable, quoi. Donc,
et aussi par rapport à la pédagogie, quoi.
Alors oui, parce que les instits, c'était les pédagos, hein, le raccourci, peut-être vous connaissez ça dans le langage de votre papa aussi, hein. Donc c'était les pédagos. Oui, les pédagos, la pédagogie, oui. Mais oui, puisque mon père a terminé conseiller pédagogique, donc il était avec... comment dire, associé à un des inspecteurs, comment ils s'appellent, comment c'est leur titre, les inspecteurs
académiques.
Non, l'inspection académique, c'est, bon, c'est départemental, mais ils se partageaient les secteurs, enfin bon, peu importe. Et alors, le premier inspecteur, ça va me revenir. Le premier inspecteur avec lequel il a travaillé, donc il tournait, hein, dans les écoles pour voir les jeunes collègues, c'était Inizan. Et Inizan était un élève et était en train de faire sa thèse avec Zazo. Raymond Zazo, ça vous dit rien, justement. Oui, parce que donc je vous parle, moi, ça, du début des années 60, hein, et même un petit peu avant. Donc, c'était les premiers pas de ce qui ne s'appelait pas encore les sciences de l'éducation, hein, quand même. Et Zazo, c'est un des des précurseurs. Hein, et je me souviens qu'Inizan faisait sa thèse sur l'apprentissage de la lecture et le temps d'apprendre à lire, enfin les variations psychosociologiques de l'appétit de lecture. Donc oui, j'étais dans la pédagogie aussi.
Et votre maman, elle suivait le même...
Ma mère, elle était directrice de l'école de filles de Bayel, directrice de l'école de filles de Saint-Paul au Tertre. Donc la tradition voulait qu'à cette époque-là, c'était les directeurs et directrices qui faisaient les classes dites de fin d'études, hein, qui menaient au certificat d'études, que j'ai passé, que mes parents m'ont fait passer. Bon. Alors elle était moins militante, mais elle avait des responsabilités, elle était membre des commissions paritaires là, pour les mutations, hein, donc représentante syndicale.
Et donc, vous êtes allé à l'école avec comme institutrice, votre maman ?
Ah, 2 ans, oui, alors ça c'est... Non, ça c'est pas une... C'est des choses que je voulais surtout pas reproduire. Et à mes enfants, quand je voulais les ennuyer, quand je me fâchais un peu et que je faisais un peu de mise en scène, je leur disais que j'allais demander ma mutation pour leur lycée, alors ils voulaient surtout pas. Non, ça fait une confusion des genres. Et puis à chaque fois qu'il y avait une bêtise de faite dans la classe, c'est moi qui prenais pour bien montrer aux autres que j'étais pas la chouchoute. Alors, j'ai pris... Bon, enfin, peu importe. Non, j'ai ça... C'est une expérience que je ne conseille à personne. Il ne faut pas mélanger.
C'était difficile aussi vis-à-vis de vos camarades ?
Sûrement, mais bon. Mais j'ai surtout le souvenir de la sanction immédiate, c'était pour moi. Pour bien montrer que. J'étais pas la chouchoute. Non, j'ai jamais eu trop de réflexions de mes camarades de classe là-dessus. Non.
Et est-ce que vous avez été intéressé à un moment donné ou sensibilisé au féminisme ou...
Non. Et toujours pas.
Parce que c'était quelque chose qui est vraiment dans votre génération et dans le.
Ben oui, mais je suis réfractaire. Parce que, je crois pour des raisons tout à fait d'un déterminisme assez sommaire, hein. Bon, il n'y avait pas de, entre instituteurs et institutrices, il n'y avait pas de différence de salaire. Hein. Donc, l'égalité des... Et comme bon, mes parents travaillaient tous les deux, le partage des tâches domestiques était tout à fait réel dans la famille. Hein. Outre que mon père, à part ça, aimait bien cuisiner, mais il n'y avait pas que la cuisine. Donc moi, je n'ai pas vécu dans l'exploitation de la femme par l'homme. Et vraiment, la guerre des sexes ne m'a jamais intéressée du tout. Et encore maintenant. Non. Ça... C'est un truc, je suis un peu là à contre-courant.
Pour vous, quel est ce que vous avez vécu comme progrès, quel est le progrès qui vous a le plus touché ou les progrès qui vous ont le plus touché dans ce que vous avez vécu ?
Alors, les progrès qui... Mais je ne m'apercevais pas que c'était des progrès.
Mais aujourd'hui, rétrospectivement...
Ah bah oui, rétrospectivement. Non, mais par exemple, j'ai compris, d'ailleurs... assez récemment, que j'étais la première génération qui avait pu ouvrir un compte en banque sans autorisation, conjugale, non, mais paternelle. Je n'ai compris que récemment, alors, quand on a refait l'histoire de... Qu'est-ce que j'ai... Non. Alors, les progrès, vous allez toujours voir que c'est très matérialiste. Je me souviens très bien de l'arrivée à la maison de la machine à laver le linge. Alors là, c'était un événement, parce que les lessives, c'était quand même la corvée. Et je revois l'arrivée de la première machine à laver. Et je revois mes parents scotchés sur leur chaise. C'était une machine à tambour horizontal avec le hublot. Et absolument émerveillés de voir l'arrivée du robot libérateur, quand même. Ça, c'était. Alors. Je me rappelle de l'arrivée du frigidaire aussi, qui est toujours en marche. C'est un vrai frigidaire, 1950. Donc ça, le frigidaire est arrivé à Saint-Paul-au-Tertre. Et ça, alors ça aussi, pour ça c'était plus le beurre dans le beurrier avec de l'eau, enfin bon. Et je me souviens très bien, là, donc c'était quand même un événement. Et ce réfrigérateur de marque Frigidaire, qui fonctionne toujours avec les mêmes joints et la même ampoule depuis 1950, je me souviens que mon père avait dit qu'il lui avait coûté un mois de salaire de 1950. Alors voilà, des histoires à raconter. Alors quand je raconte ça à des jeunes, ils me regardent, ah bon ? Voilà.
Très bien.